Quand on fait de la force, peu importe le sport, c'est pour devenir plus fort. C'est pas pour faire des choses qui répliquent plus ou moins ton sport. Je pense que c'est une erreur que j'ai fait cette année et que j'avais fait l'année précédente où j'ai commencé à sprinter trop tôt. Sprinter, c'est mon sport et puis j'adore ça. Donc forcément, on a envie de le faire, mais il faut résister à la tentation de le faire tout le temps. Puis après, tu arrives le jour de la compète, tu fais 250 à bloc à 1,11 le premier, peut-être parce que tu es chaud, puis c'est le départ, puis tu veux être devant toute la course. Et puis après, tu as fini tes 250, tu dois changer, tu as fait un effort max, quoi. Tu n'arrives plus à bouger, tu n'arrives plus à te lever, à sortir du truc, quoi.
Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode.
Loïc, bienvenue sur le podcast.
Merci.
Comment tu vas?
Je vais bien, bien, bien.
Super, c'est un plaisir de te recevoir ici dans le petit studio maison. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais?
Donc moi j'ai 26 ans et puis je suis sportif sprinter sur rameur indoor. Enfin, en français c'est toujours compliqué. Comment est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit indoor rowing en anglais? On dit aviron indoor? On dit rameur?
Comment toi tu le décris quand tu parles à quelqu'un en
Ben,
français?
en fait, ouais, en français, je parle moins souvent en français parce qu'en fait, on est dans une communauté où on se connaît beaucoup par les réseaux sociaux et puis on parle anglais tout le temps.
Ouais.
Mais en français, je dis, je fais de l'aviron indoor.
Aviron
Je dis
indoor.
plutôt ça, ouais.
Ouais. Et en anglais?
Et en anglais, ben, je suis un indoor rower,
Ouais.
sprinter.
Ouais. Ça me parle, ça fonctionne. Donc, c'est ce que tu fais à temps plein? T'es étudiant à côté?
Je suis étudiant, ouais. Et en ce moment, je suis en train de faire un stage à 100% dans une grande organisation sportive.
Ok.
Donc enfin, je bosse à 100%, quoi.
Ok.
Et à côté, je m'entraîne.
À côté, tu t'entraînes. Parle-nous un petit peu de ton palmarès, tes records, tes dernières réussites dans le sport.
Mes derniers records en date, c'est champion du monde en relais par équipe, donc homme, à la Coupe du monde qui était à Prague en février dernier. Et j'ai fait vice-champion en relais mixte. Et c'est en fait une répétition de l'année dernière. Avec les mêmes équipes, j'ai fait les mêmes résultats. On avait fait déjà champion homme et vice-champion mixte.
Ok, bah, félicitations pour ces gros résultats. Tu as aussi
Merci.
le record suisse sur 500, c'est juste?
Ouais, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de record officiel. En fait, les records sont tenus par la société Concept 2,
Ouais.
donc la marque des ergomètres que tout le monde utilise. La référence. Et ils tiennent des records pour les États-Unis, surtout l'Australie, l'Angleterre, mais il n'y a pas de record officiel en Suisse.
Ok.
Mais à ma connaissance, comme je suis au courant de tout ce qui se fait au niveau sprint indoor, j'ai le record suisse. Ouais.
Super. En combien tu le fais?
1 minute 15,7.
Tu sais ce que ça donne en watts?
Plus de 800, c'est peut-être 830.
Super. Moi, c'est une chose qui m'avait frappé quand j'avais fait pas mal de rameurs il y a quelques années en arrière.
Ouais.
C'était vraiment la communauté de rameurs indoor et le fait que bah, c'est un monde que je ne connaissais pas du tout avant. Et quand je l'ai découvert, ça m'a vraiment presque surpris de voir qu'il y avait autant de monde qui se donnait dans ce sport. Et qui se serrait les coudes, c'est vraiment une communauté où les gens se soutiennent beaucoup. Hein,
Ouais.
il y a beaucoup de positivité. Parle-nous un petit peu de cet aspect-là.
Bah en fait, c'est un aspect qui est un petit peu nécessaire, je dirais, parce qu'on fait un sport où on est tout seul sur une machine à regarder un écran. En hiver, dans sa cave, je ne sais où. Donc, c'est un sport un peu déprimant en soi, mais c'est super motivant quand on a des potes et puis qu'on connaît plein de gens via les réseaux sociaux ou peu importe. Et on peut justement se motiver et puis faire la même session que quelqu'un d'autre. Enfin, on a peut-être des gens à son niveau, on peut discuter de l'entraînement. Et puis, il y a aussi plein de challenges online. Là, le dernier en date, c'était les World Rowing Indoor Sprints sur 1000 mètres. C'était. Sur 5 jours la semaine passée, on pouvait le faire. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a le C2 CTC, peut-être que tu connais, le Concept2 Cross Team Challenge.
Ouais.
Donc, on fait partie d'une équipe. Et puis, bon, tout ça, c'est virtuel, hein. Il y a des bateaux virtuels qui s'affrontent. Et du coup, on connaît plein de monde comme ça. Et c'est ça qui nous motive et puis qui nous fait continuer et avancer et apprécier.
Comment est-ce que tu as découvert le rameur indoor?
Quand je devais avoir 15-16 ans, je me mettais pas mal au fitness parce que j'adorais les sports de force surtout. Je regardais l'homme le plus fort du monde, j'aimais, je sais pas, je m'intéressais au powerlifting, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé par m'acheter un banc, des poids. Et puis après, j'ai découvert en lisant un peu sur la théorie de l'entraînement et compagnie, parce que j'adore chercher de l'info partout. Et puis j'ai trouvé aussi que on pouvait devenir fit en faisant de l'ergomètre, quoi, et puis que c'était pratique. Enfin, donc, si on a un home gym, on n'a pas besoin d'aller courir, on n'a pas besoin du vélo, tout ça, d'avoir ça dans son home gym, c'est bien. Donc j'ai commencé, je l'ai reçu pour mon anniversaire. C'est le cadeau le plus rentable que j'ai eu dans ma vie, je pense. Je l'ai bien utilisé, ce rameur, je l'ai toujours. Donc ça fait maintenant bientôt 10 ans. En juillet, ça fera 10 ans que je l'ai.
Tu sais combien de kills tu lui as mis au rameur?
Non, il faut que je regarde la mémoire.
Et tu as dû le mettre à jour, le changer, enfin changer des pièces ou le nettoyer depuis, ou il tient toujours la route?
Non, j'ai rien cassé. J'ai dû changer peut-être les piles.
Ouais.
J'ai des amis qui ont cassé leur poignet.
Ouais.
J'essaye encore. Je n'ai pas réussi pour le moment.
Pour l'instant, tu n'as pas réussi à le
Non,
casser.
non.
Mais c'est ça, 10 ans, il est toujours là, il tient toujours. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça m'a toujours, j'ai toujours
Ouais.
adoré ça, des machines Concept 2. C'est que, ouais, comme tu as dit, c'est un investissement qui est sûr et il sera sûrement là après toi, le rameur.
Ah, il va
Si tu en prends
tenir.
un petit peu soin, il sera là un moment.
C'est clair. C'est vraiment, il y a pas, on fait pas mieux que ça.
Tu te rappelles de tes débuts sur la machine? Qu'est-ce que tu faisais comme entraînement? Qu'est-ce qui t'intéressait?
Ouais, alors en fait, je note absolument tout ce que je fais. Donc ça fait, bah, comme j'ai commencé même à soulever des poids avant ça, j'avais déjà un journal d'entraînement. Donc ça fait, je pense que ça fait 10 ans, voire un peu plus, que j'ai absolument tout ce que j'ai fait.
Ouais.
À part en 2022, je crois, j'ai fait une pause pendant l'été. Je me suis dit, je ne veux pas trop suivre tout ce que je fais, je veux être plus libre. Bon, malheureusement, du coup, il me manque des trucs, mais j'ai les captures d'écran de mes entraînements quand même, donc je peux refaire l'historique.
Ouais.
Je commençais par des Tabata, je crois. Il faut que je me souvienne maintenant, c'est 20 secondes d'effort et 40 secondes de pause, c'est
C'est
ça?
20-10 le format Tabata en
20-10, ouais.
général, 8 fois.
Ouais.
Et tu peux le répéter plusieurs fois à la suite selon comment tu veux. Mais tes premières sensations sur la machine, tu t'en souviens?
Je me souviens plus vraiment de la première session que j'ai fait, comment ça s'est passé. Franchement, c'est compliqué.
Ouais.
Je sais que je faisais ça. Je faisais le fish game
Ouais.
comme échauffement avant de
Ouais.
soulever des poids ou
Ouais.
comme finisher.
Ouais.
Je faisais surtout ça, vraiment les tout débuts, c'était ça. Et puis après, un jour, ben, j'ai découvert un peu les distances classiques 2500. Puis j'ai testé un 500. J'ai testé un 2000. J'étais pas bon, mais j'ai continué quand même.
T'as fait quelques 2000, t'as fait le 2000 pour un temps ou t'as tout de suite basculé et tu t'es spécialisé sur le cours?
Non, non, bah ça, c'est quelque chose que je me souvenais pas, que je savais pas. Et puis, il y a quelques temps, en regardant dans mon carnet, j'ai vu, ah tiens, en fait, je suis sprinter depuis plus longtemps que je croyais. J'avais déjà fait un 500 en 2017, ou je sais pas.
Ok.
Et puis, du coup, c'est vachement intéressant de voir l'historique. Enfin, c'est pour ça que je conseille aussi à tout le monde de noter tout ce que vous faites. Et puis, parce que c'est vachement intéressant quand on revient des années après voir ce qu'on faisait. Il y a des choses qu'on oublie. Et puis, enfin, c'est super cool de voir la progression au fil des années, quoi.
Donc, tu as vu que tu étais déjà sprinter avant. Qu'est-ce
Non, j'ai vu que j'étais pas bon, mais que j'aimais ça et que j'ai continué.
Mais tu étais meilleur
Peut-être.
sur le court que sur le plus
Ouais,
long.
sûrement que j'étais déjà meilleur sur le court que sur le long.
Ouais. Il y a d'autres choses qui sont ressorties d'avoir revisité
Ouais.
ton log.
Que, en fait, dès les débuts, je m'entraînais pas si mal que ça, parce que quand je vois mes choix d'exercices, c'était vachement basique. Et puis, je faisais du deadlift, du squat, du bench, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas trop de fioritures et c'était déjà. Enfin, c'est ma philosophie maintenant. Et puis, je
Ouais.
vois que je l'avais déjà, en fait, il y a 10 ans, dès les débuts.
Ouais.
Et puis, je gardais tout très simple. Je soulevais des poids lourds, j'essayais pas de faire des séries de 20, 25. Enfin, ça, c'est un autre truc qu'il y a dans la philosophie de l'aviron sur l'eau. Certaines équipes nationales font des circuits avec des très hautes répétitions. Bon, ça, on pourra peut-être en parler après, mais c'est quelque chose que j'adhère pas, en fait.
T'adhères pas et
Non, je suis pas
toi,
d'accord.
c'est pas quelque chose qui te réussirait non plus si tu le
Non,
refais
non, moi,
encore.
je refuserais de faire ça.
Bah c'est très bien pour parler un petit peu de ça. Quelles ont été tes influences au cours des années, que ce soit sur le rameur, mais en dehors de ça, hein, tu as dit que tu faisais déjà du travail de force avant, un peu de powerlifting. Quelles ont été tes influences au fil des années de cette méthodologie d'entraînement et de ta philosophie globale?
Des influences, j'ai tellement lu, je pense qu'elles sont infinies, mais il y a peut-être deux noms qui ressortent si on parle de l'entraînement en force,
Ouais.
du coup. C'est surtout Pavel Tsatsouline,
Ça souligne, ouais.
j'adore, et Dan John. Parce en fait, ils ont cette faculté à simplifier beaucoup. C'est pas super compliqué, même si Tsatsouline parle de programme russe avec des pourcentages farfelus, on ne sait pas d'où il les sort. Mais quand même, globalement, il reste sur quelques exercices de base et puis c'est très. Et ça fonctionne beaucoup sur comment jongler l'entraînement en force avec un sport. Dan Jones, c'est quelqu'un qui faisait des lancers et puis justement, son travail, c'est beaucoup sur comment faire l'entraînement en force qui soit transférable à un sport après derrière.
Pour le sport, donc pas
Ouais.
juste du powerlifting, mais
Non,
vraiment
c'est pas un entraîneur de weightlifting ou de powerlifting, non.
la force au service du sport.
Voilà. Même si je pense que de toute façon, il n'y a pas, selon moi, de sport specific training, strength training ou des choses comme ça, on peut pas. Enfin, les principes de base restent les mêmes. Et puis, moi, quand je vois des. Après, je ne peux pas parler de sport dont je ne suis pas spécialiste. Mais quand je vois des skieurs faire des squats en équilibre, des choses comme ça, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que quand on fait de la force, peu importe le sport, c'est pour devenir plus fort. Ce n'est pas pour faire des choses qui répliquent plus ou moins ton sport. Et c'est pour ça que. Parce que pour devenir meilleur à son sport, on fait son sport, on pratique son sport. Pour devenir plus fort, ben on utilise les principes généraux qui fonctionnent, qui ont été testés et puis qui sont prouvés depuis des années. Et puis, ben par exemple, pour l'aviron que je connais très bien, faire des circuits où on fait par exemple un bench pull, on fait 50 reps, ça fait partie d'un circuit connu, par exemple, qu'ils font en France. Je ne sais plus le nombre de reps, mais c'est beaucoup de reps. Quelle est la philosophie derrière? Enfin, pourquoi on viendrait faire 50 reps? Pour avoir plus d'endurance, en fait, pas pour faire de la force. Et puis, si on veut avoir plus d'endurance sur ce mouvement-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On rame 10 heures par semaine, comme le font tous les rameurs, quoi. Et donc, moi, je ne vois pas le point de faire des circuits interminables pour, en fait, travailler l'endurance quand on soulève des poids. Après, je ne sais pas, le risque de blessure, je pense qu'il est quand même plus élevé que quand on soulève lourd. Ouais, moi, je suis pas. Je le conseille, en tout cas, à personne de faire ce genre d'entraînement.
Bah, passons là-dessus, vu qu'on est en plein dedans sur ta
Ouais.
philosophie de l'entraînement. Ce que tu as dit là sur la PPG, hein, la préparation physique générale, c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec moi. Je pense que, en tout cas, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on était dans une ère d'hyper-spécificité. Tout le monde veut faire des choses qui sont spécifiques. Et l'argument, c'est que ouais, mais si ça ne ressemble pas à mon sport, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, par exemple?
Non, bah c'est un peu ce que je disais avant que l'entraînement, la préparation physique générale, la partie force. On le fait pour devenir plus fort, pour gagner du muscle, je pense. Enfin, il y a la plupart des sports, moi, les sports qui m'intéressent, en tout cas, on essaie d'avoir plus de masse musculaire et on suit des principes généraux et il n'y a pas besoin. Alors, oui, il y aura certains changements. Le programme ne sera pas identique pour un rugbyman, pour un rameur, pour un cycliste, pour un nageur. On va quand même. Le rameur, je pense qu'il va avoir quelques tirages en plus et puis il ne va pas faire 12 variantes de presse. Mais il faut quand même entraîner ces mouvements antagonistes, et puis de toute façon, ça reste. Le bench press, le military press, ils seront là, de toute manière.
Donc, tu nous as parlé un peu de ta philosophie de manière globale vis-à-vis
Ouais,
de la force.
ouais.
Maintenant, si on va un petit peu plus dans les détails, parle-nous de ta semaine d'entraînement actuelle. Comment est-ce que tu l'organises autour du travail de force? Combien de séances? Quel type d'exercice? Dans les grandes lignes, on n'a pas besoin de tous les détails, mais allons un petit peu plus quand même dans les points de ces entraînements en force.
Ouais, donc la semaine type d'entraînement, ça dépend de la période de l'année, évidemment.
Prenons une semaine hors saison
Hors
ou
saison,
loin des
ouais.
compétitions, et ensuite on prendra une semaine plus proche des compétitions où tu modifies très
Ouais.
certainement les volumes et les choix d'exercice. Donc prenons hors saison pour commencer, loin des compétitions.
Ouais, donc ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en plein dedans parce que les mondiaux, c'était il y a 2, 3 semaines, disons 2 semaines. Donc là, je suis hors saison complètement, mais je rame encore plus qu'avant, par contre, parce que justement, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. J'ai un gros manque d'endurance et donc je profite d'être hors saison pour bosser là-dessus. Et puis c'est le bon moment pour se faire un fond d'endurance, travailler la base. Donc là maintenant, c'est beaucoup de temps passé sur le rameur.
Tu fais combien d'heures de rameur par semaine là?
Je vais essayer de monter à. Alors, il faut vite que je calcule. 45. Ouais, ça doit être dans les 6-7 heures, je pense. C'est pas énorme en soi, mais quand on bosse à 100%, il faut quand même les caser,
C'est
les
clair.
heures.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que j'avais l'impression, je me suis dit, tiens, je rajoute du volume après la force, je fais un petit peu de rameur, je fais des sessions à midi, je peux faire une demi-heure si j'ai le temps. Puis, je me dis, tiens, là, je suis en train de devenir vraiment. Comme un vrai rameur, quoi. Je fais beaucoup de volume, puis en fait, je fais peut-être 65-70 km par semaine, ce qui est vraiment pas beaucoup.
Ils font quoi,
Quand je...
ceux qui font beaucoup de kills?
C'est dans les 150. Et puis, s'ils font vraiment, s'ils sont en camp d'entraînement et puis qu'on s'entraîne, on est sur le bateau tout le temps, je crois que c'est jusqu'à 200 kills.
OK.
Mais là, c'est vraiment beaucoup. Puis après, moi, je suis pas fan de calculer le volume en kilomètres, en fait. Je dis ça parce que ça parle peut-être à plus de monde, mais je préfère quantifier en heures parce qu'en finalement. Physiologiquement, si je peux dire, c'est plus les heures qui comptent que les kilomètres. Parce que un poids lourd qui rame super vite sur l'ergo, enfin qui envoie plus de watts, il va faire peut-être 20 kills en un certain temps, alors que une petite poids légère, elle en aura fait 14. Et puis quand on additionne ça, au final, ils ont passé le même temps sur l'ergomètre. Ils ont eu le même stimulus, mais
Ouais.
pas le même nombre de kilomètres, quoi.
À mon avis, t'as raison dans ce sens-là. En tout cas, moi, je travaille comme ça. Je pense que le temps, c'est le meilleur moyen de normaliser les choses en termes de
Clairement.
quantification de la charge. Maintenant, si on parle de, prenons 6 heures pour simplifier à l'heure actuelle, en termes d'intensité, par exemple, en difficulté, si on parle de RPE sur 10, comment est-ce que ces 6 heures sont réparties? Est-ce que beaucoup sont faites à des intensités qui sont plutôt faibles? Est-ce qu'une grande proportion est faite à haute intensité? Comment est-ce que tu répartis ces heures de rameur à l'heure actuelle?
Ouais, là, ben, évidemment, c'est beaucoup de faible intensité. Alors en RPE, j'ai pas l'habitude de parler en ces termes, mais je dirais que c'est entre 4 et 6, 7.
Ouais.
Et puis si on parle de zone 2, zone 3, ça dépend du
Plutôt
modèle.
3-4, je pense, si on parle de 5 zones avec...
Ouais, moi c'est plutôt. Bah, du coup, mes zones 2, je les fais correspondre à des fréquences cardiaques. Donc pour moi, la zone 2, c'est en gros, j'essaye d'être entre 65 et 70, 72. J'essaie de rester en dessous des 70, mais des fois, hop, on monte à 71, 72, puis on ralentit un petit peu. Et puis la zone 3, ce serait jusqu'à 80. 82 si. Donc en gros, 65, 70 ou bien 75, 80 pour la zone 3. Et donc je fais beaucoup de zone 2, aussi je rajoute un peu de zone 3. Et puis après, une à deux fois par semaine, je fais s'il y a un challenge online, un truc comme ça. Bientôt, il y a un 2000 mètres pour le CTC, donc je me prépare pour le 2000. Et du sprint, j'essaie de ne pas en faire parce que j'ai pas besoin. J'en ai fait ce week-end parce qu'il y avait les championnats romands d'ergomètre. Donc j'en ai fait en compétition, mais j'avais pas sprinté depuis les mondiaux. Et puis donc ça, et puis pour la force, c'est deux fois par semaine du full body. Et puis
La séance ressemble à quoi en général?
là maintenant, c'est quatre exercices. Donc le premier jour, c'est du squat, du bench, des tractions, enfin pull-ups. Et puis là, je vais mettre quelque chose un peu pour la prochaine postérieure. Enfin, peut-être des soulevés de terre à une jambe ou bien des. Ce sera sûrement des soulevés de terre à une jambe, je vais mettre. Et puis après, le deuxième jour, c'est deadlift. Je refais du squat ou du front squat. De nouveau du bench et puis des chin-ups, traction.
En termes de répétition et de nombre de séries, ça ressemble à quoi?
J'aime bien, d'habitude, je fais pas mal de séries avec peu de répétitions. Ou bien là, je fais quelque chose qui se rapproche un peu de Wendler et puis je fais des AMRAP de temps en temps. J'aime bien, puis quand je recommence, je mets des max estimés très bas et puis je fais un petit AMRAP pas trop lourd. Ça revient bien. Puis j'aime bien avoir cette fréquence de chaque mouvement deux fois dans la semaine. Un mouvement une fois dans la semaine, en fait, c'est trop de courbatures.
C'est
Et
dur d'avoir
ça,
le volume sur la semaine ensuite
ouais,
pour que tu progresses vraiment.
j'ai besoin vraiment de la fréquence. Et puis là, bah, pour le moment, bon, j'ai que pour les poussées, j'ai que le bench press, mais deux fois par semaine aussi. Et puis on peut progresser en force, monter les poids, puis c'est parfait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Les tractions, parce que je suis super mauvais en traction, donc je me suis dit c'est parfait pour les tirages. Et puis le squat deux fois par semaine, ça c'est vraiment nécessaire par contre. Et deadlift une fois, et puis l'autre variante, ou peut-être que je mettrais des pendlay. Je crois que je vais commencer le pendlay row à la place du soulevé de terre une jambe. Peut-être que j'alternerai les deux. comme ça.
Super. Et donc ça, là, on est loin des compétitions, hein. Tu viens de terminer ta saison compétitive, en gros,
Ouais.
avec les championnats du monde. L'année dernière, tu n'avais pas fait pareil dans ta hors-saison en termes de répartition de la force et de l'ergo. Tu faisais moins d'ergo?
Non, alors bon, j'ai eu une première phase après les mondiaux où je me suis concentré vraiment sur l'eau. Alors là, je soulevais carrément plus de poids.
OK.
Ça, c'est le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est on doit s'adapter quand on n'est pas professionnel. Quand c'est pas, on n'a pas que ça à faire, ben, il faut avoir des priorités. Et j'avais beaucoup plus à gagner à faire vraiment être sur le bateau, faire de l'ergomètre, enfin, que soulever des poids où j'étais déjà pas si mauvais. Et puis, je pouvais maintenir juste en faisant autre chose. Enfin, j'avais rien à gagner là, en gros. Donc, pendant quelques mois, j'étais vraiment sur le bateau. Je faisais peut-être après une séance de rame, je faisais quelques pompes et puis quelques tractions pour se marrer, mais c'est tout. Donc, ça, c'était pendant un moment. Après, je sais pas, on a des obligations dans la vie qui font qu'on ne peut pas trop s'entraîner. Si on est au service civil ou à l'armée, ben voilà, on n'a pas trop le choix pendant un moment. Après, j'ai recommencé l'entraînement surtout avec de la force. Je ne faisais carrément pas d'ergomètre et puis je m'entraînais un peu. Je soulevais des poids peut-être 4 fois par semaine parce que je me suis dit que vraiment pour le 500 mètres, déjà, quand on a un gabarit qui n'est pas énorme, ben, au moins il faut avoir de la force. Donc je me suis dit que j'avais. En vue du 500 mètres, quand mes objectifs étaient passés du 2000 mètres sur l'eau au 500 mètres, ben là je me suis dit, bon, maintenant il faut être fort. Donc je soulevais des poids 4 fois par semaine. Et puis j'ai fait aussi une petite compétition de strongman, c'était marrant. Et puis j'adore ça, en fait, j'adore soulever des poids, donc ça c'était cool. Et puis après, quand les compétitions rapprochent, eh ben, on commence à sprinter un petit peu sur l'ergomètre, on commence à ramer un peu plus. J'ai pas fait assez de zone 2 du tout, j'ai pas fait assez de ce que j'aurais dû. Mais pour optimiser vraiment ma progression et mes résultats. Mais il faut savoir, voilà, en fonction de ses forces et ses faiblesses et du temps qu'on a, ben, où est-ce qu'on va mettre la priorité, quoi.
Ouais, donc si tu là on a vu un petit peu ta semaine type maintenant.
Ouais.
Si tu compares cette semaine type maintenant à ce que tu faisais l'année prochaine, ou l'année dernière, pardon,
Ouais.
quels sont les principaux changements que tu vas apporter à ton approche de la hors-saison cette année par rapport à l'année dernière? Tu nous as dit, hein, tu es allé beaucoup sur l'eau l'année dernière, tu as fait très peu de poids pendant un moment, ensuite tu es revenu sur le lourd, mais de manière générale, quels vont être tes grands changements entre la saison dernière et cette saison qui vient?
Bah, ça va dépendre de mes objectifs. Et une fois qu'ils seront clairs, que je sais vraiment, bon, pour cette année, c'est ça, là, je vais pouvoir choisir. Si je veux à nouveau performer, disons, je sais pas moi, le 500 mètres au championnat européen, par exemple, je me dis, c'est ça mon objectif, je vais commencer à sprinter beaucoup plus tard sur le calendrier. Parce que ça, je pense que c'est une erreur que j'ai fait cette année et que j'avais fait l'année précédente où j'ai commencé à sprinter trop tôt. Bon, sprinter, c'est mon sport et puis j'adore ça. Donc forcément, on a envie de le faire, mais il faut résister à la tentation de le faire tout le temps. Donc je commencerai beaucoup plus tard. Je sais comment sprinter. Donc ça, il n'y a pas besoin de trop de pratique, je pense. Et puis de toute façon, ça vient très vite une fois qu'on s'y remet. Et ça demande trop nerveusement au niveau de l'énergie, de la préparation. On anticipe les séances parce qu'on a vraiment. Ça, c'est des séances où on a vraiment envie de performer. On sait exactement les chiffres qu'on veut avoir. Donc, vraiment, on l'anticipe. On essaye d'être vraiment prêt pour là ou les séances sprint dans la semaine. Si on peut repousser ça le plus proche possible de la compétition, c'est mieux. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose que je changerais. Et puis, dès le début, et puis sur toute l'année, je garderai beaucoup plus de zone 2. C'est assez chronophage, mais si on arrive à le caser, l'avantage, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts en soi. Par définition, c'est de l'entraînement qui est facile, qui donne énormément de bénéfices. Je ferai sur toute l'année le plus que je peux. Ouais.
Tu connais bien Vincent. D'ailleurs, c'est
Ouais.
grâce à Vincent que tu es là aujourd'hui. Merci Vincent et salut à toi.
Merci, Vincent.
Vincent, lui, bah, jure par la zone 2 également dans son
Ouais.
entraînement hebdomadaire. Par contre, sa perspective sur le rameur, c'est que la zone 2 sur rameur, ça dénature trop le mouvement parce que c'est trop lent comparé à ce que bah, tu vas vouloir faire sur un sprint de 500 mètres, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ce raisonnement-là? Vis-à-vis de la zone 2 sur le rameur, pour un sprinteur comme toi.
Trop lent en termes de
En termes de
mouvement,
mouvement,
de...
en termes de wattage, en gros que
Ouais.
le transfert va pas être suffisant et qu'il a peut-être meilleur intérêt de le faire pour lui sur le vélo, sur un éco-bike, sur d'autres modalités pour compléter son rameur.
C'est pas faux, mais en même temps, la zone 2, ben, ça dépend des définitions. Moi, je pense que quand Vincent il parle de zone 2, et il a aussi des cadences qui vont avec.
Ouais.
On n'est pas obligé de faire de la zone 2 à cadence 18-20, on peut la faire à cadence 25.
Ouais.
Bon, là c'est encore pire selon lui, je pense, parce que du coup la force par coup elle sera encore plus
C'est ça.
minime, mais en même temps ben, on s'habitue à faire ce mouvement et puis on sollicite exactement les mêmes muscles, les mêmes chaînes musculaires. Moi je pense que ça va. C'est vrai que il y a aussi l'aspect mental qui est important, et
Ouais.
puis peut-être que de changer et puis de faire de l'éco-bike, de faire du vélo, ça donne un peu un break, un petit changement qui est bienvenu, même si je trouve que le vélo, lui, il utilise un biker. On peut utiliser le biker, moi je trouve ça absolument chiant et j'en fais pas du tout,
Il y a
j'en
peut-être
ai
ce
fait un
paramètre
peu,
là aussi, c'est
ouais.
que quand tu t'entraînes beaucoup, à un moment donné, il faut aussi faire un petit peu les choses qui te plaisent.
Ouais,
Il ne faut
voilà.
pas que faire ça, mais c'est important aussi d'aimer ce que tu fais. Et ça doit faire partie du raisonnement également.
Ouais, tout à fait. Et puis moi, j'adore ramer, du coup, parce que c'est mon sport.
Ouais.
Donc, j'ai choisi la modalité rame. Et je pense que c'est franchement pas. Je pense que c'est bien. Et puis, ça m'amène à un point, en fait. Enfin, on considère le 500 mètres comme un sprint. Moi, j'ai tendance à pas être d'accord. C'est déjà un peu plus long qu'un sprint.
Ouais.
Et puis, après, encore une fois, c'est très individuel. Ça dépend des profils des personnes, mais j'ai tendance à penser que pour un sprinteur, un athlète sur le 500 mètres, si d'un coup il s'entraîne pour être bon sur un 2000, il y a des chances qu'il soit pas mauvais sur le 500 et puis qu'il devienne certainement meilleur.
Ouais.
S'il a la force, il a le gabarit, il sait comment faire un 500. S'il est fit pour le 2000, il sera vraiment prêt pour faire un bon 500, je pense. Et c'est pour ça, et donc, conséquence, enfin, raison à cela. Pour être bon sur 2000, il faut faire beaucoup de zone 2 sur le rameur. On ne peut pas faire sa zone 2 sur le vélo. Enfin, on peut, mais ce n'est pas optimal, selon moi. Et donc, je pense que faire beaucoup d'entraînement d'endurance, zone 2, zone 3 sur le rameur, faire des efforts VO2 max, enfin des séries, des choses qui correspondent à un effort sur 2000, ça doit faire partie de la préparation du 500. Ça ne va pas que être polarisé de manière sprint, all out
Ouais.
et puis zone 2. En fait, je pense qu'il faut quand même garder ce qu'il y a entre deux. Ça ne doit pas être tout au long de l'année, mais ça doit être quand même là assez souvent.
C'est une des choses qui est intéressante avec le 500 mètres, comme tu me le disais. Autour du 2000 mètres, bah, il y a
Ouais.
toute une philosophie d'entraînement, différentes théories, différentes manières de l'approcher. C'est la distance reine en aviron
Ouais.
indoor comme en aviron propre sur l'eau. Et donc, ça a été investigué et testé de multiples manières depuis des décennies. Mais sur le sprint, sur le indoor, il y a pas vraiment de philosophie établie. Donc, chaque participant fait un petit peu à sa manière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des approches très, très divergentes, malgré des résultats qui souvent convergent vers ben, des très bons résultats pour les meilleurs comme vous. Mais malgré tout, des philosophies qui peuvent différer assez
Ouais,
largement.
ouais, ouais. Ouais. Bon, du coup, on a pas mal de théories de l'entraînement sur le 2000 parce que, comme tu le dis, c'est la distance reine, c'est ce que tout le monde fait. Même si au niveau de la recherche vraiment scientifique, il n'y a pas énormément, hein, vu que ce n'est pas un sport non plus hyper populaire, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Pour les spectateurs, enfin, ce n'est pas un sport hyper populaire, quoi. Mais le 500, ce n'est pas une distance olympique. On ne va pas faire un 500 sur un bateau. Ça n'existe qu'en indoor. Et puis, c'est devenu de plus en plus populaire récemment. Mais en gros, les gens, ils se lancent là-dedans. Et puis, ils voient ce que les autres ont fait. On essaye un peu soi-même. Tiens, ça fonctionne. Et puis, on découvre comme ça, quoi. Et on peut aller chercher du coup de la théorie dans d'autres sports qui ont des durées un peu similaires. Par exemple, le cyclisme sur piste, sur 1000 mètres, on arrive à des temps aux alentours d'1 minute. Mais du coup, Ben, 15 secondes de différence, ça doit aussi faire une différence un peu dans l'entraînement. C'est quand même un effort plus court,
Ouais.
mais on peut aller regarder là un peu ce qu'ils font. D'ailleurs,
C'est un des sports dont tu t'es inspiré?
ben, je vais m'y intéresser, je vais aller chercher si je peux un peu des infos là-dessus. Je sais que le meilleur sprinter indoor en ce moment, en tout cas un des meilleurs, il a un coach qui venait de l'équipe nationale de cyclisme sur piste.
D'accord.
Donc, il y en a qui se font coacher, il y en a qui ne se font pas coacher, puis qui font tout eux-mêmes. Moi, je fais tout, toute ma programmation. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des coachs. Donc, voilà, un des sports, je pense, qui se rapproche le plus, ce serait le cyclisme sur piste, 1000 mètres.
Quels autres sports t'ont inspiré au fil des années dans ta manière d'approcher l'entraînement pour le 500 mètres?
Si on considère que c'est un autre sport, l'aviron sur l'eau. Non, sinon, le powerlifting, énormément parce que c'est une partie indispensable de l'entraînement. On doit faire de la force. Et les mouvements de force athlétique sont ceux qui sont que je recommande, que je fais, parce que faire du. Comment est-ce qu'on appelle du Olympic weightlifting, de
L'haltérophilie.
l'haltérophilie, c'est beaucoup trop technique, on n'a pas de temps à consacrer à apprendre les mouvements d'haltérophilie pour les faire correctement. Même si je pense que des power clean, par exemple, c'est bien, mais c'est déjà trop technique. J'en fais pas, je les programme pas. Donc pour moi, ça vient plutôt du powerlifting.
OK. Et de ce que tu as appris d'autres athlètes, que ce soit dans ton sport ou en dehors, comme tu l'as dit, hein, la communauté communique beaucoup.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as peut-être trouvé chez d'autres qui ont fonctionné pour toi? Et à l'inverse, peut-être d'autres approches que tu as vues qui t'intéressaient, que tu as peut-être essayé, mais qui au final n'ont peut-être pas fonctionné pour toi et avec ton approche et tes prédispositions pour la discipline.
Je pense tout. j'ai tout appris. Ouais, alors moi, un peu de mon côté, et puis après, j'ai en regardant ce que les autres faisaient. J'ai essayé, mais par exemple, je ne sais pas si on peut aller dans des détails de je ne sais pas, par exemple, le facteur de résistance, c'est un truc qui est important. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont tout le temps au max, qui s'entraînent et qui font leurs courses au max. Il y en a qui s'entraînent avec un facteur de résistance haut, mais après, pour les courses et puis pour tout ce qui est à vitesse de course, ils sont plus bas. Donc, ils vont faire. Leur 2 fois 30 minutes à 190, mais après en course ils sont à 130. Il y en a, ils sont, je pense, ils sont à 130 tout le temps parce que c'est le facteur de résistance classique pour les poids lourds hommes. Donc ils ont l'habitude de faire ça. Sur le 500, du coup, il y en a qui sont à 150, 170, 220. Enfin, il y en a qui sont contents quand on arrive en compétition. C'est des ergomètres neufs. Du coup, ils montent à 245, 250. Ils sont super contents parce qu'ils ont plus de facteurs qu'ils ne peuvent pas avoir à l'entraînement. Puis ça marche pour eux. Il y a tout. Mais en général, en tout cas pour moi, jusqu'à maintenant, ça a été entre 160, 170 facteurs de
Et
résistance.
ça, c'est à l'entraînement pour les sprints et
Et
en
en
course.
compétition, ouais, 170 quand je sprint. Et puis pour des efforts longs, je suis à 134 maintenant. Après, c'est. Voilà, il n'y a pas énormément de différence si j'étais à 132 ou à 138. Mais voilà, je suis à 134.
Pour parler un petit peu de tes chiffres, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux me donner ton poids et ta taille déjà?
Ouais, alors je suis minuscule pour ce sport. Je fais 1 m 91. 91 pour nos amis français. Et je pèse là maintenant 107. Aux mondiaux, je faisais 107. L'année passée, je faisais 106 quand c'était à Toronto. Et puis cet hiver, je suis monté à 115, mais j'étais gros. Et puis c'était pas. Ouais, c'est bien d'avoir de la masse, ça fait bouger les choses, mais si c'est juste du gras, en fait, à partir d'un certain point, ouais, non, ça ne servait pas à grand-chose.
Et ensuite, pour ce qui est tes barres en force, si on parle deadlift, squat,
Ouais.
développé couché, pour donner un ordre d'idée.
Ouais. Alors, squat. J'ai un front squat. J'ai fait 2 fois 150 kilos. Tout sans ceinture, je précise. Ouais, je déteste porter une ceinture, en fait. Et je ne l'ai
Pourquoi?
jamais fait. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai jamais appris à le faire correctement.
D'accord.
Et puis cette sensation, je ne sais pas, je n'ai pas envie de porter de ceinture.
T'as pas envie d'être assisté, entre guillemets, par le matériel, c'est
Ouais,
ça?
c'est ça, parce qu'en soi, la ceinture, elle ne va pas te corriger la manière dont tu bouges ta barre. Donc, je pense qu'elle est inutile, surtout pour des personnes qui ne font pas de compétition. On n'a pas besoin de cette assistance pour soulever plus lourd, pour faire un 350 de deadlift en compétition. Parce que si tu ne mets pas ta ceinture, ouais, tu vas soulever peut-être moins fort, moins lourd que l'autre qui va mettre sa ceinture. Mais pour un entraînement en supplément à ton sport, tu n'as pas besoin de porter de ceinture, selon moi. Et donc, je fais 2 fois 150 au front squat, au back squat. Je ne suis pas très loin, en fait. Je crois que j'ai fait une ou 2 fois 160 ou 170. Ou bien sinon, j'ai fait 11 reps à 145 au back squat. Au deadlift, j'ai fait 245 et 260, j'ai le strap qui a cassé. Donc malheureusement, je ne peux pas dire que j'ai fait 260.
Mais elle montait.
Ouais, je suis sûr. Donc 245 et puis au bench, 150.
Ok, super. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ton approche sur le facteur de résistance. On a parlé des différentes philosophies qu'il y a dans le sport selon les personnes. Revenons maintenant sur tes entraînements. Donc, on a vu une semaine hors saison, une
Ouais.
semaine proche des compétitions. À quoi ça ressemble pour toi par rapport à une semaine plus loin de ces événements?
Une semaine en compétition, tu dis?
Alors, disons
O
à
en, quand on
l'approche,
se
peut-être
rapproche?
à un mois de la compétition, ta semaine d'entraînement ressemble à quoi?
Ouais. Donc, il y aura beaucoup moins de zone 2, zone 3. On va réduire le volume. L'entraînement en force, globalement, ça reste 2 full body par semaine, mais juste avec du volume un petit peu réduit, plus lourd, moins de répétitions, globalement. Et puis, on aura du sprint.
Combien de fois par semaine tu fais?
Je pense 2 fois. Il y aura une fois très court, des 5 tirages, des trucs comme ça. Je commence à un bas facteur, je tire 5 fois, je monte, je monte, je monte jusqu'au max, quelque chose comme ça. Ou bien je reste à mon facteur de compétition parce que j'aimerais vraiment voir, tiens, à 170, qu'est-ce que j'arrive à tirer? Généralement, au max, c'est là que tu iras le plus vite, en termes de vitesse max. Mais comme ce n'est pas de la vitesse max, le 500, tu essaies de trouver un juste milieu sur ce que tu peux tenir sur 1 minute 15, disons.
Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation.
Donc les 5 coups, c'est un petit peu l'idée d'un sprint très très fort, très très court, qui s'apparente à peut-être du 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes sur un vélo par exemple. Donc c'est des sprints all out,
Ouais,
mais qui sont
c'est.
extrêmement courts et qui génèrent très peu de fatigue de ce point de vue-là.
Voilà, c'est exactement ça. Si tu étais sprinter 100 mètres, c'était ta spécialité sur le rameur, tu pourrais en faire 3 fois par semaine, des 5-6 coups sans souci, je pense, pendant un moment. Ouais, tu vas pas te. Il n'y aura pas de burn-out.
Et sur une séance, sur ce genre d'exercice, tu vas faire combien de séries à peu près où tu es vraiment all out, sans compter les échauffements et les séries préparatoires?
C'est rien de prédéfini généralement, c'est en fonction de la forme du jour. Et puis si je vois que tiens, ah, je continue à être de plus en plus rapide, tiens, je pense que je peux aller à 1320, 1330 watts, ben, je continue. Et puis si je vois que ah, tiens, là, je commence à être plus lent, je m'arrête. Enfin, c'est vraiment en fonction de la forme du jour. Ouais.
Est-ce que tu régules tous tes entraînements de cette manière-là, selon comment tu te sens?
J'essaye d'écouter pas mal, ouais, et d'adapter.
Ça a changé au cours des années ou tu as toujours été très à l'écoute de ton
J'ai
corps et
toujours
de ta
essayé,
forme?
ouais.
Qu'est-ce qui a influencé ça?
Je sais pas trop. Je pense que, enfin, je trouve ça logique un peu de pas essayer de à tout prix faire cette session que j'ai programmée si je sais que ça va pas aller. Et puis si je suis en forme puis que je me dis tiens, je peux faire ça en plus, je vais rajouter autre chose et j'adapte en fonction de la forme du jour, quoi. Ça me paraît normal, enfin logique de
Oui,
faire ça.
absolument. Revenons sur ces 5 coups, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de le faire ou qui ne l'ont jamais fait. Donc toi, ce que tu vas regarder, c'est les watts que tu vas produire au 5e coup, ou est-ce que tu as
Ouais.
d'autres marqueurs que tu
Non,
vas
non.
observer? C'est vraiment ça.
J'essaie quand même de savoir sur chaque coup ce que je fais. Ok, donc premier coup, je sais déjà si j'ai bien commencé ou pas. Le deuxième, 3, 4, 5. Et puis des fois, je fais des séries simplement de 3 coups. Des fois même, je m'entraîne juste sur le premier tirage.
Ok.
Ouais, c'est entre 1 et 5 coups.
Entre 1 et
Ouais,
5.
ça, c'est vraiment le travail de puissance max pour les sprints. Moi, ça se fait comme ça. C'est des entraînements entre 1 et 5 coups. Et vraiment savoir, premier coup, deuxième coup, troisième coup, où est-ce qu'on est. Parce que ça se suit aussi. Si on est bon sur le premier coup, après, le reste, vient avec, quoi.
Quelle est ta perspective sur un départ de 500, demi-coup, coup complet? Comment est-ce que toi tu t'approches ce départ du 500?
Alors, pas de demi-coup, pas de bullshit, comme je dis, ça n'existe pas. Il n'y a pas de trois quarts, demi, demi, trois quarts, je ne sais pas quoi, pleine coulisse, ça n'existe pas en indoor.
Ouais.
Ça vient de l'eau parce
Ok.
que pour des questions de stabilité, tu ne peux pas commencer à pleine coulisse
Ouais.
sur un départ.
Ouais.
Tu attends le attention go ici, et puis tu ne peux pas démarrer ton bateau comme ça. Sur
D'accord.
l'ergomètre, il n'y a pas de problème de stabilité, d'équilibre ou
Ouais.
autre. On commence le premier coup. C'est le même que tous ceux qui vont suivre, en gros.
OK,
Donc,
ouais.
on ne peut pas parler de full slide, de pleine coulisse ou
Ouais.
peu importe, parce que c'est un mouvement de sprint qui n'est pas le même mouvement que sur un 2000.
Ouais.
Mais en gros, on a la même compression des jambes sur tous les coups. Mais bon, si c'est un 100 mètres, on commence, on a de l'énergie et puis petit à petit, on a la puissance qui repart. Donc, on raccourcit un petit peu les coups. Donc, moi, c'est peut-être même inverse. Je commence long et je finis plus court parce qu'on monte la cadence et puis
Ouais.
du coup, on raccourcit le mouvement.
Ok. Mais
Mais
donc.
un départ, c'est pleine coulisse, full slide depuis le début, tous les coups.
Ok.
Et ils se ressemblent tous.
Super. Donc là, on a fait le tour de cette séance sprint court, si on peut
Ouais.
les appeler comme ça. Ta deuxième séance de sprint à l'approche des compétitions, à quoi elle ressemble?
Là, ce sera un truc qui ressemble à l'effort de compète au niveau de la. C'est horrible, ça fait mal, c'est long. Donc, c'est un truc. Ça peut être, je sais pas, moi, un 3 fois 250 mètres.
Combien de repos tu mettrais entre ces...
Ça peut. Mais j'essaye de mettre des repos courts parce que moi, par exemple, si je m'entraîne pour un relais, on sait qu'on doit faire 2 fois 250 mètres chacun
Ouais.
et puis qu'on aura en gros un peu moins de 2 minutes. Donc, j'essaie d'avoir des repos un peu similaires.
Ok. À quel point justement cette approche elle est influencée par le fait que tu fais du relais ou que tu te focalises sur le relais? Est-ce que tes entraînements changeraient beaucoup si tu partais sur un 500 en indiv?
Ben, sur le relais, je sais que j'ai besoin d'être fit sur 40 secondes, pas sur 75 secondes. Donc, ouais, c'est un petit peu plus d'entraînement en puissance.
Ouais.
Et puis, moins besoin de tenir cet effort 25 se ouais, 35 secondes de plus, quoi. Mais bon, après, tu dois le répéter 2 minutes plus tard. Mais l'entraînement est un petit peu plus en vitesse quand même
Ouais.
que sur un 500.
Si tu veux nous décrire la sensation sur un 2 x 250 en relais versus un 500 tout seul, comment tu décrirais pour quelqu'un qui n'en
Ah.
a jamais fait?
Le 500, on est seul avec soi-même face à la machine, donc c'est dur.
Ouais.
L'avantage d'un relais, c'est qu'on est porté un peu par l'équipe et puis on peut se motiver parmi, on peut se pousser, on a envie d'aller plus fort ensemble. Le 500, on est tout seul, quoi.
Ouais.
Et on ne peut pas se reposer sur quoi que ce soit. C'est ce que tu fais, tu as le feedback direct. Pas ralentir quoi, il n'y a pas quelqu'un qui va rattraper ou bien toi tu peux pas, il n'y a pas de stratégie comme ça quoi. Donc c'est mentalement je dirais un petit peu plus dur quand même le 500. Et de toute façon c'est tellement plus long sur un 2 fois 250 de relais aussi sur les 50 derniers mètres on va ralentir et puis on est en train de mourir sur la fin. Mais mourir sur les derniers 200 d'un 500 mètres c'est pas la même chose que juste les 50 mètres. Du 2 fois 250, donc le 500, ouais, c'est pire. Et de toute façon, quand tu sprints, tu sais qu'à la fin, tu vas mourir sur la dernière portion de n'importe quelle distance, hein.
Ouais.
Mais ouais.
Est-ce que sur ce genre de considération au niveau psychologique, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles consciemment? Est-ce que c'est quelque chose que tu approches d'une certaine manière pour être prêt justement pour cet état dans lequel tu vas te retrouver à un moment donné?
Ouais, c'est quelque chose qui est super important et que je fais pas assez en fait
Ok.
et que à explorer en fait parce que c'est vachement important. Mais ouais, c'est, je le fais pas assez en fait, la préparation mentale.
Tu penses que ça pourrait t'aider?
Ouais, clairement, comme pour, je pense, à peu près tous les sports, de toute façon. Et bah, moi, je suis à fond sur la préparation physique, la théorie de l'entraînement, toutes ces choses-là, mais à oublier cette partie qui est en fait vraiment super importante, c'est à quel point tu es prêt à performer le jour J au niveau mental, en fait. Pas que être bon, prêt physiquement à faire l'effort, il faut encore le faire, et pour ça, il faut être prêt aussi mentalement à se donner à 100%, chose qui n'est pas facile du tout.
Donc, il y a cet aspect psychologique où tu penses que tu as une petite marge de progression encore,
Ouais, une grosse marge de
une
progression,
grosse
ouais.
marge. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'entraînement de manière générale où tu vois que toi, peut-être, tu as un potentiel dans l'année ou les années à venir pour mieux faire, pour aller plus loin, pour explorer différemment?
Bon, de toute façon, il y a une grosse progression à faire dans tous les domaines. Sur la portion physique, tu dis? Ouais. Bon, j'ai un énorme déficit d'endurance, de toute façon, donc... C'est là que j'ai beaucoup à gagner, je
Ok.
pense. Ouais.
Quelle différence tu penses que ça va faire sur tes entraînements, ou même si peut-être tu l'as déjà ressenti via ce que tu as pu mettre en place, quelle est la différence pour toi de cette endurance, de cette meilleure endurance pour un sport qui est si court au final?
Bah, une meilleure récupération peut-être entre les deux portions de relais, quoi. Être prêt, être plus prêt pour le deuxième 250. T'auras peut-être pas une même vitesse max. Mais si tu peux tenir un haut pourcentage de cette vitesse max plus longtemps, ben c'est gagné. Et c'est en étant plus fit et plus endurant, je pense qu'on arrive à tenir ce pourcentage mieux.
Parlons un petit peu des mondiaux
Ouais.
qui viennent de se passer et de la préparation. Donc, parle-nous de tes coéquipiers d'abord,
Ouais.
en homme et ensuite en mixte.
Ouais. Alors, en homme, c'est exactement la même équipe que l'année passée. On avait fait une équipe avec un pote à moi qui est grec et qui rame depuis longtemps. Andreas, il vient de l'aviron sur l'eau. Il a fait des Coupes du Monde, moins de 23, des trucs comme ça. Enfin, il a beaucoup d'expérience. On a décidé de monter une équipe avec un ami à nous canadien qui était vraiment, lui, au top level du sprint indoor, qui était avant powerlifter. Et puis après, on a trouvé encore un autre grec qui s'appelle Spiros et qui nous a rejoint, qui vient aussi de l'aviron sur l'eau et qui maintenant fait du football US. Et puis après, et puis donc le Canadien qui s'appelle Cameron. Et après, le jour de la compétition, petit problème, on n'a pas pu avoir Cameron qui nous rejoint pour la course, donc on a dû trouver un remplaçant de dernière minute. Donc un pote à moi que je connais parce qu'on connaît tout le monde du coup, enfin on connaît beaucoup de monde par les réseaux, qui me voyait pour la première fois, Jérémy, un Américain, et il a décidé de nous rejoindre last minute. On n'a même pas eu le temps vraiment de s'échauffer. On est parti sur le comment t'appelles ça, sur le lieu de la compète, quoi. Enfin, on est entré en scène. Et puis lui, il était en chaussettes de laine cousue parce qu'il ne s'attendait pas à faire une compétition, quoi. Il venait là le jour avant son 2000, il venait récupérer sa carte d'athlète, quoi. Et donc, il s'est vite acheté un short de compétition, quoi. Et puis on est monté et puis on a fait ça. Du coup, on était boosté par l'adrénaline et on a gagné ce relais, quoi. Et bon, on était vraiment chaud. Bon, parce que en plus, moi j'avais d'autres courses, mais mes deux potes grecs étaient venus que pour le relais, donc ils avaient tout à perdre s'ils le faisaient pas ou si on manquait quelque chose. Donc on était vraiment à fond et on a décidé de refaire exactement la même équipe cette année. Et on a de nouveau gagné notre pari, quoi.
Ça a
On
bien
a
fonctionné.
ouais.
À quoi ça ressemble un 2000 en relais en termes de temps par rapport au meilleur temps que les individuels font?
Donc du coup, tu perds un petit peu de temps, enfin tu rames beaucoup plus fort en termes de watts et tout, mais tu perds un petit peu sur les transitions parce que du coup, il y a cette transition. Donc le temps que tu t'arrêtes, que tu passes la poignée et puis que le suivant, bah, ça s'est ralenti, puis il faut relancer. Chose qu'on avait mal calculée parce qu'on visait un temps, en fait, on voulait faire 4,58 pour le record du monde. Donc, ça fait une moyenne à une 14,5. Donc on pensait tous tirer une 13 en moyenne.
Ouais.
Et puis on a perdu un petit peu plus sur les transitions parce qu'en fait tu fais tes transitions à l'entraînement, tu n'es pas en train de faire un demi la bloc
Oui.
comme en
Oui.
compétition. Donc en fait tu es quand même assez frais sur les transitions, tu bouges assez vite.
Ouais.
Puis après tu arrives le jour de la compète, tu fais 250 à bloc à une 11 le premier peut-être parce que tu es chaud, puis c'est le départ, puis tu veux être devant toute la course. Et puis après tu arrives, tu as fini tes 250, tu dois changer, tu as fait un effort max, quoi, tu n'arrives plus à bouger, tu n'arrives plus à te lever, à sortir du truc, quoi. Donc en fait, tu perds un petit peu plus de temps que prévu sur les transitions.
Okay.
Mais donc le score, on a fait 5 minutes pile, donc ça fait une 15-0 de moyenne sur 2000. Ça fait 35 secondes plus rapide qu'un record du monde.
Ouais, sur un individuel, sur 2000.
Sur un individuel, et à savoir que là, chaque seconde que tu gagnes, c'est énorme, vu que les watts, ça devient de plus en plus cher à gagner chaque seconde.
Avec l'optimisation des transitions, vous pensez que vous arrivez à aller chercher le record du monde?
Ouais, oui. On peut le faire, ouais.
C'est dans les plans l'année prochaine, vous n'en avez pas encore parlé.
Ça dépend si tout le monde peut le faire l'année prochaine ou sinon ce sera l'année d'après parce que j'ai mes coéquipiers qui vont ramer, faire la traversée de l'Atlantique.
OK.
Donc, ils auront plus le physique de sprinter une fois arrivés en février aux mondiaux.
Ouais.
Donc, s'ils font pas plus de 100 kilos, ça va pas le faire. Tu
OK. Donc il faudra qu'ils reprennent une année pour mettre un petit peu de
vois. Ouais,
masse
ouais, ouais.
et ensuite ils seront prêts.
Ouais. Je pense que ce sera plutôt du coup pour 2026.
Ok, super. Bon, on vous attendra au tournant.
On sera là.
Équipe mixte.
Équipe mixte, j'ai refait avec donc Jérémy. Mon ami américain et puis Teresa qui est tchèque. Donc je dis les nationalités parce qu'on peut faire des équipes internationales
Ouais.
mixtes en termes de nationalité, ce que je trouve cool. Et puis donc Teresa tchèque et puis Anna une finlandaise. Finlandais qui sont redoutables et puis qui gagnent normalement tout sur les relais.
C'est vrai?
Ouais,
Ils
sauf
sont très
depuis.
populaires là-bas?
Ouais, ils ont des sélections un peu nationales
Ok.
où ils prennent vraiment. Le top du top.
Ouais.
Donc, ils sont vraiment redoutables sur les relais, sur les sprints. Globalement, ils ont des super bons athlètes en aviron indoor. Ouais.
Sauf depuis que vous êtes là.
Bah, là, maintenant, c'est compliqué pour eux. Ouais. Ils ne sont pas
Vous
contents.
êtes, vous faites vice-champion du monde, c'est ça?
en mixte, ouais, derrière les Finlandais.
D'ailleurs, les Finlandais, à combien vous êtes?
On était à 4 secondes.
4 secondes,
Ouais,
ça fait beaucoup.
ça fait. Une seconde aux 500
Ouais.
chacun, quoi. On
Ouais.
tirait une seconde de moins. Mais en fait, non, on était plus proche en termes de watts, mais on a perdu du temps sur deux transitions. Enfin,
D'accord.
moi, sur le départ, tu as le protocole de départ sur ton ergo qui te met attention go. Et puis, je sais pas, là, le go est resté longtemps. Je pensais que c'était un problème. Du coup, j'ai un peu ralenti mon départ
OK.
et j'ai regardé sur l'écran de course, voir si ça continuait, si c'était pas un faux départ.
Ouais.
Donc là, j'ai perdu clairement quelque chose sur le départ. Et puis
OK.
après, ma transition avec la suivante, elle a bloqué son pied. Là, on a perdu ouais, bien 2 secondes facilement,
OK.
si ce n'est plus.
Si
Donc après,
tout...
si on était plus proche, on aurait peut-être pu, on se serait battu différemment.
Vous auriez pas été
Ouais,
loin?
je pense qu'on aurait été très, très proche.
OK.
Ouais, l'année prochaine, on gagne. Mais
C'est...
ça fait partie du truc. On fait des erreurs. Ma foi, voilà, ça fait partie du jeu.
À quel point vous prenez du temps pour vous retrouver avant, pour travailler ces transitions? Est-ce que une fois que tu es sur le circuit des relais, est-ce que tout le monde comprend les transitions et les fait de la même manière?
Ouais, bah on discute énormément avant la compétition parce qu'on est chacun à gauche, à droite, entre la Finlande, le Canada, les États-Unis. Donc, on discute vraiment de comment faire les transitions. Ceux qui peuvent, il y en a un, il va faire essayer les transitions avec sa femme. On le fait comme ça. Sinon, on essaye d'être sur place quelques jours avant et puis du coup, on s'entraîne sur place avant. Mais
Ouais.
c'est là où on a un désavantage parce que les équipes, les Allemands, ils viennent tous de, je sais pas, d'Osnabrück, ils s'entraînent entre eux.
Ouais.
Les Finlandais, ils s'entraînent entre eux. Donc voilà, au niveau transition, ils sont entraînés. Et nous, ben, malheureusement, on ne peut pas. Donc on a l'expérience de l'année passée, et puis c'est comme ça qu'on s'entraîne niveau transition.
Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres d'autres événements qui t'intéressent dans le rameur indoor, autre que le relais ou le 500?
Bah, il y aurait le 2000. parce que c'est la distance.
Ouais.
Mais comme je suis un peu pourri sur 2000, j'ai pas prévu d'en faire prochainement, en compétition en tout cas.
Donc tu vas rester sur le sprint et sur les relais.
Ouais, si, à moins que la zone 2 marche tellement bien là, cette année que peut-être qu'en 2025, je serai bon pour un 2000, on ne sait jamais. Mais là, pour le moment, ce n'est pas dans mes plans.
Super. Bah, parle-nous de tes autres aspirations ou tes autres objectifs à moyen, long terme. Tu dois faire du rameur indoor encore quelques années. Tu as d'autres idées en tête?
Ouais, de toute façon, je vais continuer d'en faire. Un de mes objectifs, ce serait vraiment le 500 en Coupe du Monde, faire un podium individuel. Donc, c'est vraiment un de mes objectifs. L'année passée, j'avais pu faire deuxième au niveau européen. C'est là que j'ai fait une 15,7.
OK. Pour aller chercher un podium mondial, faut quoi comme temps?
Une 14 plutôt.
Une 14.
Faudrait que je passe sous les une 15, ouais.
Et à quel point tu peux concilier le travail pour le relais et le travail pour le 500, ou est-ce qu'il faudrait que tu dédies une saison
Non,
ou un
non.
certain?
Donc, pardon, je corrige juste. L'année passée et cette année, c'était quand même une 15,5 pour faire la médaille de bronze. Donc,
OK.
en fait, j'étais pas très loin.
OK.
Non, le seul problème, en fait, c'est au niveau du timing pendant la compétition. Il y a toujours le 500 mètres avant le relais. Puis
Ouais.
quand on fait le relais, on a envie de gagner.
Ouais.
Donc, si on a un 500 juste avant, et puis qu'on a aussi envie de faire un podium ou de gagner, ben, c'est dur de gérer les deux. Donc, si tu fais ton 500 puis que tu sais que tu as un relais qui vient juste après, c'est sûr que tu ne vas pas pousser au max. Enfin, derrière, tu sais que tu as un relais qui va venir, donc tu n'es pas à pleine capacité.
C'est
Et
le
puis
même
après,
jour ou c'est
c'est le même
proche? C'est
jour.
le même
Ça
jour.
a toujours été le même jour.
C'est matin 500, après-midi relais
Non, 2 heures
ou
avant.
2 heures.
Normalement, le relais, c'est la dernière course de la journée.
OK.
Il y a les hommes et puis les femmes en même temps, je crois. Et puis les 500, ils sont avant, pendant l'après-midi. Donc, tu as 2 heures de pause. Donc, si tu fais un 500 à bloc, après ton relais, ben forcément, tu seras pas à 100% non plus. Si tu te bats si les écarts sont de 2 secondes, tu ne peux pas te permettre, en fait.
Il te faut combien de temps pour récupérer d'un 500 mètres à bloc?
Un moment.
Ouais.
Non, un jour. Je
Ouais.
pense que le lendemain, je serai bon, mais
Ouais.
sur la même journée, c'est pas possible.
Donc, il faudrait que tu fasses un choix pour.
Ouais, ou que le planning y change.
Ok.
Mais je crois pas que ça va changer.
Est-ce que
On a
ça.
essayé.
C'est vrai, vous avez fait des
Ouais, on
demandes
a
dans
demandé,
ce
mais
sens-là?
il s'est rien passé.
Ok.
Mais ouais. Je pense que si le planning. Et le problème, c'est qu'on le sait très tard, le planning. Ils peuvent pas te sortir un planning de compétition 6 mois avant ou
Ouais.
une année. Enfin, ce serait bien de le savoir en tout cas 6 mois avant
Ouais.
si tu veux planifier tes priorités.
Ouais.
Si tu le sais 2 semaines, disons, je pense qu'on le savait peut-être 2 semaines environ avant la
Pas
compétition.
plus que ça?
Non.
Sur la date, le lieu, etc. Ou sur
Non, la date,
le.
le lieu, on sait, mais le
C'est plus
planning
que le
horaire,
planning. Ouais,
pour savoir l'ordre des
ouais.
courses et puis l'écart que tu as entre les deux, tu le sais très tard.
D'accord.
Bon, c'est normal, hein. Mais du coup, c'est très compliqué de s'organiser. Donc, en fait, à toi de savoir avant la compétition.
Ouais.
En tout cas, personnellement, je dois choisir avant, est-ce que je vais faire la priorité, est-ce que je fais le 500 cette année ou est-ce que je fais le relais?
Ok.
Ouais.
Et pour l'année qui vient, là, tu es fixé sur le relais encore pour le moment?
Pour le
Si
moment, je ne sais
l'équipe est
pas, je
là?
serai là. Si l'équipe est là au complet, bon, je pense que ce sera le relais parce qu'il
Ouais.
faut qu'on gagne chaque année et puis
Ouais.
qu'on reste comme ça.
Ouais.
Et sinon, ce sera peut-être le 500.
Peut-être
Mais ça
500.
dépend de mes autres objectifs dans l'année parce que là, si je vais essayer d'être plus sur un bateau,
Ouais.
107 kilos, ce n'est pas trop extrême non plus, mais ce n'est pas assez lourd pour un 500 et c'est
Ouais.
trop lourd sur un bateau.
OK.
Et donc, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment un choix. Et puis, est-ce que je fais 115, 120 kilos pour être bon sur 500 ou bien est-ce que je fais 95, 100 pour être bon sur un bateau? Ça fait quand même un gros gap chaque hiver passer entre 115
Ouais,
et
ouais.
95. Je pense qu'il ne faut pas faire des sauts de 20 kilos comme ça chaque année. Au bout d'un moment, il faudra faire un choix.
Ouais. Et là, parce que là, tu aimerais te spécialiser un peu plus sur le. Ou t'entraîner un peu plus sur le bateau?
Là, maintenant, je vais le prendre comme ma hors saison par rapport à l'ergomètre. Et je vais essayer de faire beaucoup plus de bateaux et puis voir ce que je peux faire là-dedans. Ouais.
Ok. Et là,
Faire cette saison.
ce serait en skiff ou ce serait en équipe?
C'est soit en skiff, soit en double.
Ok.
Et puis aussi plus sur ce qu'on appelle le coastal,
OK.
l'aviron de mer, en
Ouais.
fait. Il y a des championnats suisses de beach sprint qui vont commencer.
D'accord.
C'est une nouvelle discipline olympique, si jamais. Donc, c'est un truc qui est en train de devenir de plus en plus populaire. Donc, c'est une des disciplines de l'aviron.
OK.
C'est intéressant parce que du coup, c'est un effort qui est proche de ce que je fais moi déjà sur l'ergomètre. Parce que tu dois courir à ton bateau, faire 250 mètres,
Ouais.
tourner, revenir 250 mètres.
D'accord.
Donc, c'est un effort court. Ce n'est pas le 2000 qui te prend 7 minutes et
OK,
puis qui est pour lequel je ne suis pas bon. Donc, je me réjouis d'essayer ça.
ouais.
Et il y a aussi les championnats suisses classiques où c'est 6 km. Tu as
D'accord.
plusieurs bouées, puis tu dois suivre un parcours, de
Ouais.
nouveau tourner. Faire...
Ça, c'est un peu plus long.
Là, c'est long. On est là 45 minutes, je pense. Enfin, ça dépend tout des conditions météo, mais
Ouais.
c'est super long.
OK.
Mais je vais quand même essayer.
Donc, tu vas t'éloigner un petit peu plus
Ouais.
du sprint, mais
Ouais.
en sachant après aussi que tu auras certainement des clés que tu auras développées, que tu n'as peut-être pas développées les années précédentes pour revenir vers ton sport et voir comment tu peux peut-être mieux faire.
Ouais, clairement. Et puis de toute façon, c'est hyper bénéfique de changer un peu les choses, de faire autre chose, même si c'est super proche quand même de ce que je fais à la base.
Ouais.
Et j'espère arriver du coup dans la prochaine saison indoor plus fit, plus endurant. Et c'est tout bénef, moi je pense.
Tu penses que ça, c'est quelque chose que les gens font pas assez, s'éloigner de leur sport principal de temps en temps pour changer les choses, pour développer des qualités qui sont peut-être moins fortes?
Ouais, je pense que les gens, il y en a pas mal qui ont pas de vrai hors saison, tu vois, d'avoir un mois où c'est vraiment tu penses plus à ton sport et puis tu fais vraiment autre chose. Et puis mais bon, moi le premier, je pense que ça arrive à tout le monde. Tu te dis, tiens, je vais perdre tout ce que j'ai mis une année à
Ouais.
essayer de gagner. Mais en fait, c'est tout bénef. Moi, je pense qu'après, justement, tu reviens plus frais. Pour tout ce qui est à venir au programme le reste de l'année, quoi.
Je voulais terminer par parler un petit peu de ce que tu fais côté coaching aussi. Tu coaches
Ouais.
une poignée d'athlètes, dont quatre qui ont fait les mondiaux à Prague, c'est ça?
Ouais, il y en avait trois, quatre. La quatrième, je commence à la coacher maintenant, après les mondiaux.
Ok. Comment est-ce que tu approches le coaching, toi qui es bah, très autodidacte hein, dans ta manière d'opérer en tant qu'athlète,
Ouais.
c'est toi qui te coach, c'est toi qui écris tes programmes. Comment est-ce que tu commences à encadrer d'autres athlètes dans ce sport?
La programmation, du coup, je me rends compte aussi en faisant ça que la programmation pour soi, c'est très différent, du coup, parce qu'on n'a pas ce regard externe, c'est un autre regard, quoi, par définition, de toute façon. J'approche ça, ben, justement, en puisant dans tout ce que je sais qui fonctionne pour moi, mais aussi en l'adaptant à la personne, parce que chaque personne a un profil, différent. Moi, mes forces et faiblesses, de toute façon, seront pas les mêmes que pour chacun de ces athlètes. Donc, j'adapte en fonction de ça, en fonction bêtement du temps que les personnes elles ont, de l'accès à quel type de matériel, etc. Et des objectifs, parce qu'ils n'ont pas tous en fait le même objectif. Ils ne sont pas tous sprinteurs 500 mètres.
D'accord.
Donc, il y en a qui se préparaient pour le Versa Challenge, par exemple.
OK.
C'est quelque chose qui a été fait aux mondiaux l'année passée, qu'ils ont refait maintenant pour se rapprocher plus de l'e-sport, en fait.
Ouais.
Et donc, c'est un truc un peu plus interactif où, sur les 2 jours de compétition, il y a 10 personnes qui sont sélectionnées pour faire ce challenge
Ouais.
et ils ont 5 épreuves différentes
OK.
sur différentes modalités, en gros. Et donc, on retrouve bah, du sprint, mais aussi des trucs beaucoup plus longs, des cadences imposées. Donc, il ne faut pas
OK.
monter ou descendre,
Ouais.
il faut rester à la cadence.
Ouais.
Il y a des trucs de stratégie. L'année passée, il y avait même les slides, si
OK.
tu vois les
Ouais.
slides. Il y avait des trucs par équipe même, où du coup, sur les slides, ils étaient connectés. Puis, il y avait 2 personnes sur des slides, 2 personnes, des équipes comme
Ouais.
ça, voire même 3, et ils devaient switcher de position. Enfin, super compliqué. Donc là, j'en coachais 2 pour ça. Du coup, ils doivent être bons
Un peu tout.
sur un panel, ouais,
Ouais.
de distance. Et ils doivent savoir respecter des cadences, ils doivent savoir jouer la stratégie, enfin,
Ouais.
trucs comme ça. Et d'autres, je les prépare pour le sprint parce que c'est ma spécialité.
Qu'est-ce que toi tu retires de cette expérience en tant que coach et que tu peut-être tu retranscris dans tes propres entraînements ou dans ton approche personnelle?
Je vois, ouais, c'est clair que en programmant, je vois aussi ce que moi je pourrais faire. Et le truc, c'est que moi j'ai une idée globale, par exemple, de ce que c'est mon entraînement pour la semaine, pour les mois à venir, mais je viens pas écrire en fait exactement parce que je laisse un peu une marge de manœuvre. Mais peut-être que je laisse trop de marge de manœuvre et que tiens, si un jour ça me saoule de faire cette session que j'avais programmé, je me dis, tiens, lui, aujourd'hui, je vois qu'il a fait ça, ça m'intéresse, je vais faire ça. Mais peut-être que j'aurais plus à gagner à vraiment suivre plus un plan. Parce qu'en fait, les athlètes que tu coaches, ils n'ont pas le choix. Tu leur envoies un programme, ils vont faire ton programme, ils ne vont pas commencer à changer tout ce que tu as fait. Et ça marche comme ça. Et peut-être que j'aurais plus à gagner à vraiment écrire peut-être un peu plus précisément certaines sessions et vraiment m'y tenir en fait.
En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir, d'apprendre à te connaître et ta manière de fonctionner. Encore une fois, je pense que c'est super intéressant de par le fait que, bah, y a plein d'approches différentes pour cette discipline. Et que de manière générale, je pense qu'on peut tous en apprendre des choses en termes de principes généraux de l'entraînement, parce que malgré le fait qu'il y ait des approches divergentes, on se retrouve toujours quand même avec, ben, il y a le profil de l'athlète, ses prédispositions, les choses pour lesquelles on est fait ou un petit peu moins, et ensuite orienter la programmation selon ces paramètres. Ben donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui sur le podcast.
Merci à toi.
Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent suivre tes aventures ou peut-être te contacter pour des questions du coaching ou autre?
Alors, sur Instagram, Loïc Chalveter, c'est mon Instagram handle, c'est la même chose.
Ouais.
Je m'appelle Loïc Chalveter sur Instagram. Ils peuvent m'envoyer un message et je leur répondrai rapidement.
Super. Bah écoute, le lien sera dans la description pour les intéressés. Et merci encore pour cette opportunité du podcast.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.